Voici la revue de presse internationale avec Ezequiel Fernandez. Bonjour Ezequiel.
Bonjour Benoît.
Beaucoup de questions aujourd'hui autour d'Internet et des réseaux sociaux comme vecteur de propagande islamiste.
Twitter cible les contenus extrémistes, titre le Wall Street Journal. Le réseau social basé à San Francisco a annoncé hier avoir suspendu durant les 6 derniers mois 235 000 compte soupçonné d'apologie du terrorisme qui s'ajoute aux 125 000 fermetures effectuées depuis mi-2015. Un tiers de ces comptes ont été identifiés grâce à des procédés anti-spam, ces courriels indésirables que les Québécois appellent d'ailleurs joliment des pourriels. C'est cela. Twitter affirme avoir renforcé ses moyens de contrôle 24 heures sur 24, tout en reconnaissant ses limites. Il n'existe pas d'algorithme magique pour identifier des contenus terroristes sur Internet. Le réseau social est dans le collimateur parce qu'il est devenu ces dernières années l'un des meilleurs véhicule de propagande de l'État islamique. Il est si facile d'ouvrir un compte sous couvert d'anonymat. De toute façon, le travail de contrôle ou de modération des messages relève de l'impossible. En mai dernier, Twitter comptait 320 millions d'utilisateurs actifs par mois qui envoyaient 500 millions de tweets par jour dans 35 langues. Autant essayer de construire une digue de fortune face à un tsunami. Toutefois, une unité spécialisée de l'université George Washington a relevé une baisse de la présence de l'État islamique sur le réseau social en 2015, grâce à cette politique plus ferme et de plus grande envergure de fermeture des comptes qualifiés de suspects. La question de la responsabilité, disons, passive des réseaux sociaux dans la propagation de messages terroristes se pose, y compris sur le terrain judiciaire. Le Wall Street Journal rappelle qu'en début d'année, deux veuves d'employés du ministère américain de la Défense, tués en novembre dernier lors d'une attaque attribuée à Daesh, ont attaqué Twitter au motif que le réseau social avait contribué à faciliter cette attaque. Un juge fédéral a estimé dans une décision rendue la semaine dernière que Twitter ne pouvait pas être tenu comme légalement responsable des messages de propagande en relation avec cet attentat. La loi protège en effet les fournisseurs de services offrant des tribunes sans pour autant en créer le contenu. Il n'en demeure pas moins que la question épineuse de la co-responsabilité reste posée sans doute pour très longtemps. Sur le même sujet, le site de BBC News donne le point de vue d'une chercheuse de la fondation Quilliam. C'est un cercle de réflexion britannique centré sur le combat contre l'extrémisme islamiste. Nikita Malik considère que les efforts de Twitter pour mieux contrôler le contenu des messages ne représentent qu'une solution, oui mais à court terme. Il faudrait, dit-elle, que les médias sociaux dans leur ensemble soient plus actifs en promouvant des contre-contenus qui battent en brèche la propagande extrémiste.
Nous restons dans le monde d'Internet, Ezequiel, avec la fin d'un groupe américain de médias en ligne qui s'était spécialisé dans l'information à sensation.
Il s'agit du groupe Gawker, créé en 2003 à New York. Son PDG, Nick Denton, a annoncé hier à ses employés que son site vedette Gawker.com fermerait la semaine prochaine définitivement. Information relayée notamment ce matin par Radio-Canada. Un site spécialisé dans le sensationnel, sinon le trash, épinglant volontiers les vedettes du showbiz ou les milieux d'affaires. Très populaire, il revendiquait 23 millions de visites par mois l'année dernière. L'annonce de la fermeture du site est intervenue juste avant qu'un tribunal des faillites de Manhattan n'approuve une offre de rachat par le groupe Univision. C'est le plus grand réseau de chaînes de télévision hispanophone des États-Unis. Une offre qui pèserait 135 millions de dollars, précise le quotidien belge Le Soir. La question étant, bien sûr, pourquoi Gawker s'est-il retrouvé en faillite? Eh bien, la réponse est judiciaire, et il faut bien le dire, assez rocambolesque. Il a été poussé au dépôt de bilan par une lourde condamnation il y a 3 mois de cela, l'obligeant à verser la bagatelle de 140 millions de dollars de dédommagement à une star du catch américain qui s'appelle Hulk Hogan. Il faut dire que Gawker.com avait diffusé une vidéo le montrant en train d'avoir une relation sexuelle avec la femme d'un de ses amis. Cela donne une idée d'ailleurs assez précise du créneau médiatique dans lequel œuvrait ce site d'information. Le patron fondateur du site, Nick Denton, condamné solidairement avec sa société, s'est prudemment déclaré en faillite d'ailleurs personnelle au début de ce mois d'août. Là où l'affaire devient plus goulayante, si j'ose dire, peut-on lire dans les colonnes du Temps, le quotidien suisse, c'est qu'il apparaît que la défense du catcheur en question lors du procès avait été financée en sous-main par le milliardaire Peter Thiel, un des rois de la toile, cofondateur du système PayPal, d'eBay, membre du conseil d'administration de Facebook, bref, un beau palmarès. Peter Thiel s'est fait un plaisir de révéler en mai dernier qu'il avait déboursé environ 10 millions de dollars de sa poche donc pour soutenir le catcheur. La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà une formule qui s'applique parfaitement à cette révélation. En 2007, l'un des blogs du groupe Gawker avait en effet révélé son homosexualité, ce qu'il n'avait visiblement pas digéré. Il a donc tout fait pour avoir la peau de son ennemi et il y est parvenu presque 10 ans plus tard. Une vengeance qui pose d'autres questions, qui ont à voir avec la liberté d'expression et le respect de la vie privée. L'écrivain canadien Stephen March a pris la défense de Gawker alors qu'il ne partage pas du tout ses valeurs et qu'il a même été souvent attaqué par ce site. Voilà ce qu'il déclarait dans les les colonnes récemment du New York Times. Les journalistes et éditeurs veulent que le pouvoir soit mis mal à l'aise, peu importe s'il mérite ou non cet inconfort, et ils pensent que le droit à l'information du public est plus important que le droit à la vie privée de n'importe quel individu, je dirais à celui qui pense que Gawker n'est que de la presse de caniveau, que ces valeurs-là valent quelque chose, même dans le caniveau.